En fait, vous savez qu'aujourd'hui, donc 100 ans jour pour jour, enfin un petit peu avant, à Pétrograd, les bolcheviks prenaient le pouvoir et commémoraient, en tout cas réfléchir ensemble à la question politique ici, en ce jour. Moi, je trouve que c'est voilà, je suis assez content de le faire. Je suis assez content que vous soyez venus pour qu'on puisse le faire ensemble. Je tiquette là sur le mot commémorer parce qu'évidemment c'est pas mon idée aujourd'hui. C'est pas célébrer la grande révolution socialiste d'octobre. Enfin, on pourrait peut-être s'amuser à le faire. C'est aussi réfléchir avec vous en termes de réussite. Parce que finalement, la révolution d'octobre, c'est un mouvement politique qui arrive à prendre le pouvoir. Et ça, c'est une réussite, même quoi qu'on en dise. En termes d'échec aussi, parce que la révolution bolchevique, elle débouche, on peut le dire, sur un échec qui fait que eh bien, les tentatives révolutionnaires ou la pensée de remplacer un régime sont de plus en plus difficiles à exprimer dans le domaine politique. Le sujet que j'ai choisi, enfin que nous avons choisi, à savoir la question des manifestations et la question de la rue, bon, d'abord est un clin d'œil aux quelques polémiques qu'il y a eu il y a quelque temps autour de certaines affirmations de Jean-Luc Mélenchon, mais c'était plus un clin d'œil qu'autre chose. Mais cette question de la rue et de la manifestation de rue autour des révolutions de 1917 me semble quelque part bien illustrer cette question de la réussite et de l'échec, parce qu'autour de ce contrôle de la rue s'est jouée en grande partie la réussite, la prise du pouvoir révolutionnaire, en tout cas, au moins en février, on le verra en octobre de manière un tout petit peu différente, mais aussi l'échec avec la manière avec laquelle les bolcheviks vont gérer cette question de la manifestation de rue. Et c'est pour ça que j'ai mis ces bornes un peu étranges de mon intervention, donc 1917-1927. Bon, j'ai pas voulu me centrer juste sur l'événement 17, mais aller jusqu'en 27. 27, je le dis un peu en avance, c'est la dernière grande manifestation, comment dire, revendicative. En tout cas avec des éléments de revendication à Moscou. C'est la dernière fois que les trotskistes et les zinoviévistes interviennent dans la rue pour contester le pouvoir politique stalinien. Et il n'y aura plus de manifestation revendicative après, jusque aux années 1980 et à la fin de l'Union soviétique. Donc c'est un petit peu cette histoire de la manifestation de rue que j'avais envie de traiter avec vous. Donc je vais essayer de le faire, on m'a dit, en 30 minutes. Donc comme j'ai un peu tendance à parler trop quand je dépasse, je compte sur les commissaires politiques pour me faire signe que j'abuse. Dernière précision, j'imagine que vous savez, mais qui est importante, c'est cette histoire de calendrier. Vous savez que la Russie, avant le 31 janvier 1918, fonctionne encore avec le calendrier julien, qui se situe 13 jours avant le calendrier grégorien, ce qui fait qu'effectivement, nous célébrons le 7 novembre la révolution d'octobre, qui a lieu le 24 et le 20, dans la nuit du 24 au 25 octobre, ce qui fait qu'on se mélange tout le temps sur les dates. Donc je vais essayer, en général, je donnerai les dates en calendrier julien. Ce qui veut dire que chez nous en France, c'est 13 jours plus tard. Voilà, donc 30 minutes. L'autre défaut des historiens, c'est de vouloir toujours. On n'arrive jamais à commencer à la date prévue. Hein. On dit toujours, bon, 17, mais pour être précis, il faudrait que je remonte à Mathusalem. Donc je ne vais pas remonter à Mathusalem, mais je suis obligé de remonter un tout petit peu avant pour vous expliquer d'où vient cette importance de la manifestation de rue dans la série des événements révolutionnaires de 1917. Ce n'est pas une spécificité russe. Descendre dans la rue avant 1917, en tout cas avant février 1917, ça a un enjeu. Et ça, je pense que par rapport à la situation actuelle, puisque tout à l'heure, on va débattre aussi des échos de cette révolution russe pour nous aujourd'hui, la manifestation de rue avant 1917, c'est pas la manifestation, c'est pas le tour du bassin de la Bastille que nous avons tous pu faire, j'imagine, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un enjeu il y a un enjeu politique très fort, il y a un enjeu aussi en termes, j'allais dire, quasiment vital. C'est-à-dire que quand vous descendez dans la rue, en Russie en tout cas, mais pas seulement en Russie, avant février 17, vous risquez votre vie, hein, parce que les manifestations, on tire dessus et on peut mourir. Et donc ça change évidemment beaucoup de choses par rapport au simple fait de discuter de descendre ou pas dans la rue. Pourquoi ? Parce que quand on descend dans la rue avant 1917, normalement on désobéit. On désobéit à l'ordre officiel, on désobéit au pouvoir, aux autorités qui, en règle générale, n'autorisent pas les manifestations revendicatives. Les seules manifestations, c'est pour ça que je commence par ce petit clin d'œil, ce tableau d'une procession orthodoxe peint par le peintre Ilia Répine dans les années 1885, les seules manifestations de rue et processions de rue autorisées sont les processions religieuses. Mais évidemment, il n'est, le tsarisme autocratique n'autorise pas les manifestations politiques et certainement pas les manifestations qui le contestent. La manifestation politique est un phénomène relativement tardif dans le 19e et le début du 20e siècle russe. Elle est assez liée au développement du mouvement ouvrier et donc à l'industrialisation de la Russie, qui, comme vous le savez, est assez tardive. Elle est très liée d'abord à la grève. Hein, c'est d'abord la grève, et souvent, les ouvriers en grève vont sortir de l'usine et manifester de manière sauvage, évidemment non autorisée. Et là, on risque de rencontrer les soldats, les cosaques, les gendarmes qui sont là et qui tirent et qui chargent sur la foule. Il y a un certain nombre de manifestations. Les premières manifestations sont liées à ça. Deuxième moment, peut-être moins spontané, plus organisé, sont des manifestations qui sont liées à la date du 1er mai. Les premières grandes manifestations dans l'espace russe sont liées au 1er mai. D'abord à Varsovie, hein, qui à l'époque fait partie de l'Empire de Russie, en 1890. Puis des petites manifestations pas très importantes en 91 à Moscou, en 92 en 91 à Saint-Pétersbourg, pardon, et en 95 à Moscou. Mais la première vraie grande manifestation dans l'histoire russe, comme ça, c'est en Ukraine, en fait, à Kharkov, pour le 1er mai 1900. C'est la première fois que, de manière importante, et c'est aussi lié aux grèves liées au 1er mai, les ouvriers descendent dans la rue sur deux jours. C'est réprimé par des arrestations, il n'y a pas de mort, mais c'est assez symbolique, et c'est la première fois, autour du mot d'ordre classique de la journée de 8, enfin classique, habituel pour l'époque de la journée de 8 heures, vous avez quand même dans une petite... Enfin, Kharkov est une ville industrielle, mais ça reste une ville de province russe, de 10 à 11 000 grévistes, ce qui est quand même énorme, ce qui fait pas la quasi-totalité, mais quasiment les ouvriers de la ville. Et le camarade Lénine lui-même a bien noté l'importance de cette manif. En fait, elle est pas tellement elle est importante parce qu'elle existe et que il n'y a pas de mort et que pour la première fois, les gens vont se dire eh bien, on peut descendre, on peut tenter d'occuper l'espace public et puis ça marche. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et à partir de 1900, on va retrouver de plus en plus dans l'espace russe donc de manifestations politiques à Perm en 1901. Ou par exemple à Nijni Novgorod en 1902, chose grande manifestation qui est décrite par Gorki dans son roman La Mer et qui est mise en scène après en 1926 par Podovkin dans son film La Mer, sur lequel je conclurai mon intervention tout à l'heure. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, on sera un peu. Mais les risques sont toujours sont quand même grands parce que dans toutes ces manifs, enfin sauf celle de Kharkov, mais par la suite il y a des morts. Un mort, parfois beaucoup plus. Deuxième grande manifestation qui marque l'histoire de la Russie avant 1917, c'est ce qu'on appelle le dimanche sanglant du 9 janvier 1905, où le peuple ouvrier de Saint-Pétersbourg, donc les quartiers ouvriers de Saint-Pétersbourg sont dans une sorte d'ébullition, il y a des grèves, la grande usine, qui est la grande usine de Pétersbourg, l'usine Poutilov, qui est la plus grande usine de la ville, est en grève, et ils sont plus ou moins noyautés et comment dire, manipulé, mobilisé par une sorte de prêtre, lui-même manipulé par la police secrète tsariste, le prêtre Gapone, qui dit, dont l'idée à cette époque-là est d'infiltrer, enfin de, pas d'infiltrer, mais de créer une sorte de, enfin oui, de syndicat type jaune, quoi, où on va diriger les revendications ouvrières vers des choses qui ne remettent pas en cause le tsarisme. Et donc l'idée de Gapone est de dire, vous n'êtes pas content, eh bien c'est pas grave, on va aller ensemble apporter une lettre au tsar Nicolas II en lui disant tous les problèmes qu'on a, vous allez voir, le tsar il est à l'écoute du peuple, il n'est pas au courant de tous vos malheurs, aucun problème. Donc le 9 décembre, alors là, le gouvernement fait comprendre que c'est une très mauvaise idée, la police fait comprendre que c'est une très mauvaise idée, mais Gapone insiste un peu. Et donc le 9 janvier, grande manifestation qui part de différents points de Saint-Pétersbourg, qui va vers la place du palais, centre du pouvoir tsariste. Et sur le chemin, y a des soldats, et les soldats tirent. Les soldats tirent, il y a 200 morts, 800 blessés, donc c'est quelque chose d'assez important et qui va marquer profondément les rapports entre le peuple ouvrier, le peuple de manière générale, et le tsarisme, avec la fin, dit-on, de ce mythe du tsar à l'écoute du peuple. Hein, puisque là, on lui a apporté une belle lettre où on lui disait « Nous, ouvriers, habitants de la ville de Saint-Pétersbourg, de différents états, nos femmes, nos enfants, nos parents, vieillards impotents, nous sommes venus vers toi, sire, pour chercher justice et protection. Nous sommes tombés dans la misère, on nous opprime, on nous écrase d'un travail au-dessus de nos forces, on nous insulte, on ne nous reconnaît pas comme des êtres humains, on nous traite comme des esclaves. » Bon, revendication qui est portée à Nicolas II, qui fait tirer. Nicolas II comprend absolument rien à ce qui se passe et dans sa grande générosité reçoit le 19 janvier une délégation à laquelle il dit « Quant à venir en foule révoltée me déclarer vos besoins, c'est un acte criminel. J'ai foi dans l'honneur des sentiments des ouvriers et dans leur loyauté inébranlable à mon égard. C'est pourquoi je leur pardonne leur faute. » Donc le pardon de Nicolas II ne sera pas oublié. Ce qui prouve qu'il n'a rien compris à l'histoire. Mais c'est cette manifestation réprimée du 9 janvier 1905 était un vrai point de rupture dans l'histoire politique et sociale de la Russie. Et c'est le début de tout un cycle de manifestations qui va déboucher sur la révolution de 1905. Donc, manifestation assez durement réprimée. Puis après ce cycle révolutionnaire, des arrestations, etc. Bon. Je ne vais pas vous faire tout le détail, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On a, après ce cycle de 1905, qui se termine par une série d'arrestations, entre 1906 et 1910, on a 5000 personnes, près de 6000 personnes qui sont condamnées à mort. Autant d'arrestations politiques, des déportations, enfin, il y a une répression extrêmement importante qui calme un peu le jeu et on n'a finalement plus tellement de manifestations par la suite. La conflictualité politique et sociale renaît dans les années 1910-1911 avec une grande manif d'ouvriers sur les bords de la Léna, donc un des grands fleuves sibériens russes, où il y a des mines d'or. Et ces mineurs d'or de la Léna se révoltent pour des questions alimentaires, font une grande manifestation, et de nouveau, on leur tire dessus. Entre 100 et 300 morts, 250 blessés. Et là encore, très concrètement, la manif, voilà, l'enjeu, c'est pas un enjeu, on plaisante pas. Donc ça nous amène, c'est cette mémoire-là qui est présente en 1917, au moment où vont débuter les événements de 1917 qui nous intéressent. Alors la différence, sur quoi va se jouer 1917, donc la première révolution de 1917, celle de février-mars, hein, qui commence le 23 février 1917, donc ancien style, style julien, qui correspond au 8 mars, journée internationale de la femme. Ça va jouer sur, là aussi, l'occupation de la rue. Pourquoi ? Parce que avant mars 1917, on ne peut pas occuper la rue. Vous avez compris pourquoi, parce que si vous descendez dans la rue, on vous tire dessus. Bon. Or, ce qui se passe en février-mars 1917, c'est que les gens descendent dans la rue et on ne leur tire pas dessus. Enfin, on va leur tirer dessus un petit peu, puis au bout d'un moment, on ne leur tire plus dessus. Et le fait qu'on ne leur tire plus dessus, c'est le signe qu'ils ont gagné, qu'ils ont pris le pouvoir. Et donc, la manifestation de rue, sur tout le cycle de 1917, va avoir un enjeu de pouvoir. Ce n'est pas seulement un enjeu revendicatif, c'est un enjeu de pouvoir. Descendre dans la rue et maîtriser la rue, c'est quelque part prendre le pouvoir. Donc cette révolution de 1917, elle commence dans la rue, vous le savez peut-être, par une manifestation de femmes, en ce jour de la Journée internationale de la femme, autour de la question de la faim. Il n'y a plus de pain à Saint-Pétersbourg à ce moment-là, à Pétrograd, pardon. Là, il n'y a plus de pain parce que la Russie est totalement désorganisée par les années de guerre. Ça fait 3 ans qu'il y a la guerre. Les gens ont l'immensité du territoire russe, la faiblesse de l'État russe au début de la guerre fait que tout ça fonctionne de manière totalement délirante. Les chemins de fer fonctionnent extrêmement mal, le réseau routier est totalement déficient et il y a d'immenses problèmes d'approvisionnement des villes, approvisionnement à la fois en farine et en grains, mais également en carburant, pour dire les choses un peu généralement, enfin en choses qui vont permettre de tourner les boulangeries, c'est-à-dire on amène du pain ou on amène tous les moyens qui vont faire du pain, du bois, pardon, tout ce qui va permettre de faire tourner les boulangeries, éventuellement du carburant ou de l'électricité. Donc cette manifestation de femmes, qui est une manifestation pour le coup revendicative, qui se passe sans trop de problèmes, mais en fait elle fait très vite jonction avec le peuple ouvrier. Et la grande usine Poutilov, dont je vous ai déjà parlé, se met également en grève au même moment pour des raisons à la fois liées et à la fois liées à la question de pénurie, mais également liées à tout ce qui relève des conditions de travail, de leur exploitation, du fait de la nécessité de produire pour l'effort de guerre, et puis aussi de la perte de sens qui est générale en Russie à ce moment-là sur pourquoi on fait cette guerre. Poutilov se met en grève et se suit de ce mouvement de grève un lock-out. On vire l'ensemble du personnel de Poutilov pour pouvoir les rembaucher un tout petit peu plus tard. Et donc on a toute une série de gens qui sont disponibles pour aller manifester. Mais ça a fait tache d'huile et le 24 février, c'est-à-dire le lendemain, on a... Alors les chiffres, ça ne veut rien dire, ce n'est pas été une période qui a été non plus extrêmement sérieusement étudiée, mais certains parlent de 70 à 80% des ouvriers de la ville en grève, le 24 février. Avec des slogans très politiques, des drapeaux rouges, des slogans très politiques, mort à l'autocratie, à bas l'autocratie, à bas la guerre. Le camarade Nicolas II n'est pas là. Il s'en fiche un peu. Non, en fait, il est à Mogilev, en Biélorussie, qui est le lieu du quartier général militaire où on dirige l'armée russe. Et depuis 1915, Nicolas II est assez régulièrement à Mogilev pour diriger l'armée russe. Donc, il n'est pas à Petrograd. Et de Mogilev, on l'informe de ce qui se passe à Petrograd. Et puis, il dit, ça suffit, il faut demain régler le problème. Il donne un ordre très précis, demain, régler le problème. Il faut que tout le monde rentre dans les usines et que ça se termine. J'ai oublié de préciser qu'il faisait un peu moins froid à Petrograd. Il y a un genre de réchauffement climatique qui peut jouer son rôle. Enfin, il gagne 20 degrés en quelques jours. Donc on devait être à moins 20, on tourne autour de zéro. C'est plus facile d'aller manifester quand il fait zéro que quand il fait moins 20. Mais ça joue aussi. Je vais faire mon Emmanuel Leroy-Ladurie, vous parlez du climat. Et donc, comment on fait pour régler le problème demain ? On tire. C'est la seule solution qui est laissée aux forces de l'ordre. Donc, les soldats, le 26 février, refusent de tirer. Une partie de la garnison de Petrograd refuse de tirer. Les officiers ne refusent pas, donc tirent, avec les soldats qui restent loyaux. 169 morts. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que les soldats, après, même les officiers, refusent d'aller plus loin face à ce massacre. Et c'est cet effondrement de l'ordre public, c'est-à-dire cet effondrement de la force répressive, qui provoque l'effondrement du pouvoir politique, parce que le gouvernement ne sait plus quoi faire. Et on s'auto-dissout, le gouvernement tsariste, d'un seul coup, s'auto-dissout. Et c'est justement cette présence dans la rue qui va tout changer. Parce qu'il n'y a plus personne pour leur tirer dessus. Par ailleurs, deuxième chose qui est importante, et qui explique aussi beaucoup de l'année 1917, c'est que les manifestants ne sont pas des simples manifestants. Enfin, ils sont pour partie des manifestants, mais pour une partie, ils sont des soldats. Une partie des soldats qui se sont rebellés et mutinés, eh bien, ils vont manifester. Et des soldats qui manifestent, ils manifestent certes avec des drapeaux rouges, mais aussi avec des armes. Et à Petrograd, en 1917, il y a des armes partout. Il y a des armes partout parce qu'il y a des usines qui fabriquent des armes, Poutilov par exemple. Il y a des armes aussi parce que voilà, il y a ces soldats insoumis qui refusent d'appliquer les ordres du gouvernement. Donc le 25 février, on se retrouve avec 30 000 personnes devant le palais de Tauride, lieu de l'assemblée russe, la Douma. Dans ces 30 000 personnes, il y a beaucoup de soldats armés. Et là, le gouvernement ne sait plus quoi faire et il s'autodissout. Donc la révolution, elle se passe pour le coup. Vous verrez qu'en octobre, c'est pas ça, mais la révolution de février, la chute du tsarisme, elle se passe dans la rue, et l'enjeu, c'est la maîtrise de la rue. D'autant que les gens, le président de la Douma, il sait pas trop quoi faire, il voudrait pas prendre le pouvoir, mais il y a plus rien. On lui dit, il dit, moi, j'aimerais pas sortir de la légalité, mais on lui dit, mais le pouvoir, il est là, prends-le, bouge-toi, fais quelque chose. Et c'est cet effondrement répressif qui explique assez largement la révolution de février-mars 1917. Mon but aujourd'hui, pas de vous raconter l'histoire de la révolution, mais de vous montrer comment, à chaque fois, la question de la manifestation et de la rue est essentielle. Une fois que le tsarisme est tombé, vous savez que Nicolas II abdique, évidemment, la question de la manifestation et de la présence dans la rue change totalement. Pourquoi ? Parce que dans les premières décisions du gouvernement provisoire et du soviet qui se mettent en place très rapidement après la révolution de février-mars, les libertés civiles sont reconnues au peuple de Russie. Donc liberté d'association, liberté de manifestation. Descendre dans la rue après février-mars 1917, c'est plus aller à l'encontre des autorités, c'est autorisé. Donc l'enjeu va être un tout petit peu différent. Avec deux questions qui sont posées, il faut jamais oublier ça, avec deux questions qui sont posées à la société russe et aux gens qui peuvent potentiellement manifester, qui sont les questions de la guerre et de la question sociale. Question de la guerre, est-ce qu'on continue la guerre ou pas ? Un des enjeux majeurs, pourquoi les soldats se rebellent, pourquoi ça part en vrille en février-mars 1917, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas aller au front, ils ne veulent pas faire la guerre, ils en ont marre de ce pouvoir tsariste qui fait la guerre, alors qu'on ne comprend pas pourquoi on fait la guerre. Et donc, un des enjeux de la révolution, c'est d'arrêter la guerre. Sauf que très vite, le gouvernement provisoire et assez largement la Douma, mais on va voir dans le soviet, pardon, le gouvernement provisoire et assez largement le soviet de Petrograd, vont continuer la guerre. Bon, on va voir. Et puis, deuxième question, c'est la question sociale. Est-ce que la révolution apporte certes des libertés civiles, mais est-ce qu'elle va apporter, je ne sais pas, la journée de 8 heures, est-ce qu'elle va régler les problèmes du monde ouvrier ? Ces deux questions que finalement le gouvernement provisoire ne résout pas, sont la raison pour laquelle il y a octobre. C'est parce qu'ils ne résolvent pas la question sociale et qu'ils ne résolvent pas la question de la guerre. Enfin, la solution qu'ils proposent, de continuer la guerre, ne convient pas à une majorité, enfin à une majorité, en tout cas, on va dire au peuple russe. Autour de ces questions de continuer ou pas la guerre, va il va avoir une première série de tensions. Donc vous avez une première... Enfin, l'idée, c'est de continuer la guerre au nom de ce qu'on appelle à l'époque le défensisme révolutionnaire, c'est-à-dire défendre les acquis de la révolution. C'est-à-dire, l'idée, si on arrête la guerre, bien la révolution, et que le tsarisme revient, on aura tout perdu. Donc il faut continuer la guerre pour pouvoir continuer les acquis de la révolution. Bon. La question, c'est comment on continue la guerre. Alors, des gens comme Kerensky disent on continue la guerre pour défendre les acquis de la révolution, mais à minimum, c'est-à-dire sans annexion. Voilà, on continue la guerre, mais on n'en fait pas plus. D'autres, au gouvernement provisoire, sont sur une ligne beaucoup plus légitimiste en disant il faut continuer à respecter les engagements internationaux du tsarisme et donc continuer la guerre, comme le demandent nos excellents alliés, notamment français. Les attachés militaires français à ce moment-là sont très actifs auprès du gouvernement russe. Le seul parti qui va prôner, enfin qui prône pendant un long moment le défaitisme, puis qui prône la paix à tout prix, sont les bolcheviks. Les bolcheviks vont tout au long de la période de février-mars 17 jusqu'à octobre, novembre, se créer un espace politique, bénéficier d'un espace politique autour de cette question de la poursuite de la guerre et de la paix. Alors, autour de ça, on va avoir une série de manifestations qui ont lieu donc à Petrograd. Notamment au moment, en avril 1917, Lénine rentre, hein, c'est les fameuses thèses d'avril, Lénine rentre dans un wagon plombé, aidé par les Allemands, avec plein d'argent, quand il arrive à Petrograd, la première chose qu'il dit, c'est la paix. La paix à tout prix. Il dit d'autres choses, mais il insiste beaucoup sur la paix. Et il surprend ses petits camarades bolcheviks qui ne s'attendent pas réellement à ça, qui sont assez sur une ligne... Bon, le défensisme révolutionnaire, ça ne les traumatise pas plus que ça. Et Lénine dit non, c'est la paix à tout prix. Bon. Et là, dans cet espace qui va se créer, il y a une série de grandes manifestations qui sont organisées par les bolcheviks en avril 1917. Enfin, qui sont organisées par les bolcheviks, ça c'est aussi difficile à dire. Est-ce qu'on organise une manifestation? Est-ce que les bolcheviks en avril 1917 sont suffisamment nombreux pour organiser des manifestations? En tout cas, ils appellent à ces manifestations, ils soutiennent ces manifestations. Je ne sais pas si c'est eux qui les organisent totalement, on pourra revenir là-dessus. En tout cas, au moment d'une des crises du gouvernement provisoire qui provoque autour de ce qu'on appelle la note Miliukov, c'est-à-dire une note du ministre des Affaires étrangères qui affirme aux alliés qu'il va tenir tous les engagements du tsarisme, il y a une série de manifestations qui ont lieu, et de nouveau, autour de ce thème de « non, nous voulons la paix ». Et qui va manifester pour la paix? Des soldats. Et des soldats qui manifestent, encore une fois, ils sont armés. Donc l'enjeu, encore une fois, ce n'est pas une simple manifestation de gens qui ne sont pas contents, c'est derrière, il y a un enjeu de pouvoir. Hein c'est extrêmement tendu. Et on tire sur la foule. Le gouvernement provisoire fait tirer sur la foule. Donc, avril 1917, on retombe, quelque part, sur un schéma compliqué, parce qu'on a basculé sur l'ère des libertés publiques, on a le droit de manifester, c'est plus pénalement ou même militairement répréhensible, mais comme il y a plus que cette question de la manifestation, il y a la question du pouvoir derrière, on se retrouve dans des manifestations qui débouchent sur un certain nombre de morts. Avril 1917, le 18 avril, donc il y a cette manifestation, il y a des morts. Le 18 avril, quelques jours plus tard, si vous calculez rapidement, 18 avril plus 13, ça nous amène le 1er mai. Donc, qu'est-ce qu'on fait le 1er mai? Et là encore, c'est une vraie question, puisque on a l'idée de la revendication qui est au cœur du 1er mai est évidemment bouleversée par le fait qu'il y a une révolution et qu'au pouvoir, il y a des gens qui potentiellement sont les soutiens de ces revendications du 1er mai. Donc tout le monde se demande ce qu'il faut faire. Surtout que ça vient quelques jours après les manifs qui ont été réprimées. Mais en gros, la manif du 1er mai 1917 à Pétrograd et un peu partout en Russie, vous avez ici le 1er mai 1917 à Kharkov, c'est des sortes de manifestations célébration. C'est bon, on a gagné, hein, on a fait la révolution, on descend dans la rue et on célèbre le 1er mai. Donc on va avoir sur cette période février-octobre cette double tension, manifestation revendicative, armée, prise de pouvoir, manifestation, célébration, qui ne seront pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque les bolcheviks, après 1917, vont se rappeler de ça. J'avance un tout petit peu, parce que sinon je vais dépasser mon temps. Cette question, elle est reposée régulièrement, j'allais dire tous les mois, jusqu'en octobre. Elle est reposée d'abord en juin 1917, parce que se pose très vite la question justement du fait de cet espace politique que les bolcheviks ont su se créer autour de la question de la paix, qui provoque un courant de sympathie chez les soldats pour le bolchevisme. Parce qu'au début, Lénine, il ne l'aime pas trop. Hein. Le type, il est défaitiste. Quand vous êtes soldat, les défaitistes, c'est pas top. Mais l'idée de la paix va faire son chemin et va rencontrer un écho chez la garnison de Pétrograd et notamment chez les marins de Kronstadt, qui vont devenir un des hauts lieux du bolchevisme. Bolchevisme convaincu ou, comme certains diront, le bolchevisme des tranchées. C'est-à-dire des gens qui finalement sont d'accord avec les bolcheviks parce que. On rencontre au même moment, on a les mêmes idées, les mêmes revendications au même moment, sans nécessairement savoir exactement quel est le programme des bolcheviks. Donc très vite va se poser la question de la prise du pouvoir. Et cette question de la prise du pouvoir, en juin et en juillet 1917, elle est liée à la manifestation. En fait, c'est est-ce qu'on descend dans la rue ou pas? Et si on descend dans la rue, c'est pas neutre, ni pour les bolcheviks, ni pour ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, soviets de Pétrograd, dirigés par les menscheviks essentiellement, les socialistes révolutionnaires, ou le gouvernement provisoire. Et donc, tout le monde fait très attention à ça. Et on contrôle énormément tout ce qui est forme de manifestation publique, c'est descendre dans la rue, encore une fois, ce n'est pas neutre. Et donc les bolcheviks passent leur temps à discuter. Pendant le mois de juin 1917, est-ce qu'on descend dans la rue ou pas? Est-ce qu'on descend dans la rue avec des armes? Est-ce qu'on prend le pouvoir ou pas? Ils discutent plusieurs fois. Globalement, l'idée à ce moment-là, c'est de ne pas descendre dans la rue. On n'est pas prêt. On n'est pas assez soutenu. Il ne faut pas faire de faute. Et en même temps, la base soldatesque, enfin la base des soldats, en tout cas, à Kronstadt notamment, pousse pour descendre et prendre le pouvoir pour faire la paix. Donc ça discute énormément. On a un cas en juin où finalement, en poussant, donc vous avez des manifs comme celle-ci. Je vais passer un peu plus vite. Voilà. Le 4 juin 1917. Au moment où se réunit le congrès des soviets, donc des représentants des soviets de toute la Russie qui se réunit à Pétrograd, congrès des soviets qui est dominé par les socialistes révolutionnaires, les menscheviks, hein, les bolcheviks ont vaguement 13% des délégués, il y a une manif, la base bolchevique, enfin la base militaire, décide d'organiser une manifestation pour le 10 juin 1917. Quand cette info arrive aux soviets, au congrès des soviets, branle-bas de combat, dit attention, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, pression énorme sur les bolcheviks qui renoncent à organiser une vraie manifestation. On publie, alors que tout était organisé, hein, ça se passe dans la manif était prévue pour le 10. L'info arrive dans les cercles du pouvoir Pétrograd dans l'après-midi du 9. Ça a une pression immense sur. Alors, il y a une partie des bolcheviks qui cannent tout de suite, Zinoviev, notamment Kamenev, bon. D'autres qui traînent un peu plus la patte. Mais finalement, la manif est annulée et le congrès des soviets publie ce texte qui dit camarades soldats et ouvriers, ne faites pas ce à quoi on vous appelle, sauvegardez vos forces pour la défense de la Russie révolutionnaire. Donc ne descendez pas dans la rue. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Bon. Et donc finalement, ils décident une sorte de compromis qui est une manifestation à l'appel du Congrès des Soviets qui a lieu le 18 juin et qui n'est donc pas une manifestation contre, mais une manifestation pour célébrer la révolution. D'accord ? Donc, vous voyez bien comment petit à petit se dessine cette idée de la manifestation de rue qui n'est plus une manifestation revendicative, mais une manifestation célébration. Cette manifestation rassemble tout le monde, mais les bolcheviks décident de faire, on va dire, de l'entrisme et d'organiser une manifestation à l'intérieur de la manifestation avec leur propre slogan. Et c'est leur immense succès, puisque cette manifestation-là rassemble 400 000 personnes. Et sur les 400 000, en gros, les trois quarts ont des slogans bolcheviks. Donc, ils ont réussi un coup politique très fort. Mais c'est très provisoire, puisque se repose très vite la question de la prise du pouvoir. Et on avait résolu la question en juin, la question se repose en juillet. Et je passe, puisque, enfin, je passe pas tellement, parce que c'est la dernière grande série de manifestations. À partir du 3 juillet 1917, un des régiments de mitrailleurs de Pétrograd, le premier régiment de mitrailleurs qui est le plus agité, en a marre, décide, ils n'ont pas envie de partir, ils décident d'arrêter la guerre, ils veulent arrêter la guerre, ils sont un peu travaillés, pas par des bolcheviks, mais par un militant anarchiste, un certain Iosif Blechman, qui a cette phrase qui pourrait nous faire réfléchir, il faut descendre dans la rue, c'est la rue qui nous organise. Ils décident de partir organiser la rue, ou se faire organiser par la rue, et faire débrayer les autres usines et les autres régiments. Et donc très vite, le 3 juillet, on va retrouver 60 à 70 000 personnes dont des soldats armés, vous voyez là, dans les rues de Pétrograd, qui se dirigent vers le Congrès des Soviets au palais de Tauride. Et qu'est-ce qu'on fait ? La question se pose, les questions éternelles du que faire bolchévique, là, elle se pose très clairement. Qu'est-ce que doivent faire les bolcheviks ? Le camarade Lénine est en train de se reposer au bord du golfe de Finlande, donc ils sont un peu embêtés, ils ne savent pas trop quoi faire. Et ils appellent, ils décident finalement, parce qu'ils n'ont pas le choix, de soutenir ces manifestations, mais en disant, attention, vous faites les choses dans l'ordre. Hein. Donc ça, c'est l'appel. Faut faire les choses comme il faut, pas de débordement, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais vous n'essayez pas de prendre le pouvoir. En même temps, ils envoient en urgence chercher Lénine. Lénine revient, arrive à Pétrograd, parle aux soldats avec un bide monumental parce qu'il leur dit, soyez sages, jeunes gens. Les soldats sont modérément convaincus. C'est la dernière fois que Lénine parlera en public avant octobre. Et les manifestations ont lieu quand même. Et ça tire. Ça tire, c'est la fameuse photo que vous connaissez tous, à l'angle de la perspective Nevski, le 4 juillet 1917. Le gouvernement provisoire. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a des armes partout, alors tout le monde tire. Enfin, bon, bref, il y a des morts à ce moment-là. Ça se débouche devant le palais de Tauride. Ils prennent une sorte de ministre en otage, le ministre de l'Agriculture Tchernov, qui finit par être libéré. Puis, bon, finalement, le gouvernement provisoire et le Congrès des Soviets reprennent l'avantage. Et la répression est immédiate contre les bolcheviks qui sont arrêtés, mis en prison. Lénine part se cacher. C'est la fin de ce cycle-là. Et c'est la dernière en fait, grande manifestation qui a lieu avant octobre. Il n'y a plus de manif après. Et il n'y a plus de manif même avec octobre. Parce qu'octobre, ça se fait sans manif. Octobre, c'est le coup d'État militaire. C'est une force organisée, limitée, armée, qui prend le pouvoir. Bon, qui prend bien le pouvoir de manière très efficace, mais ça se fait sans manifestation. Et donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après octobre avec ces manifs. Parce que toutes les problématiques que je vous ai évoquées rapidement entre février et octobre, elles se reposent après. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir manifester ? Et quel est le sens de la manifestation dans un État qui se prétend ouvrier ? Et on va retrouver les mêmes problèmes. Et les bolcheviks vont apporter deux réponses. Première manifestation, c'est la manifestation revendicative. Ça va très vite être interdit. Hein ? La première et la seule grande manifestation revendicative de l'espace russe après octobre 1917, c'est le 5 janvier 1918, au moment de la dissolution de l'Assemblée constituante. Les bolcheviks dissolvent l'Assemblée constituante dans laquelle ils ne sont pas majoritaires. On pourra revenir sur les raisons qui les poussent à dissoudre l'Assemblée constituante, mais en tout cas, il y a une manifestation de soutien à l'Assemblée constituante qui est dispersée par la force et on tire sur la manifestation. Il y a 21 morts le 5 janvier 1918 à Petrograd. Alors, on tire. En fait, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. À ce moment-là, tout le monde est extrêmement nerveux. Il y a des armes partout, toujours. C'est difficile de savoir exactement comment ça a commencé. Ce n'est pas pour excuser quoi que ce soit des bolcheviks, mais en tout cas, de toute manière, le résultat final, il est là. C'est qu'il y a une manifestation revendicative, soutien à l'Assemblée constituante, qui est dispersée par la force et qui fait 21 morts, et qu'après janvier 1918, l'essentiel des manifestations... Alors, il y aura des manifestations, pas beaucoup, et généralement, elles sont systématiquement réprimées. En revanche... La manif continue à exister dans l'espace public soviétique après janvier 1918, mais cette fois-ci sous une forme festive et commémorative. C'est évidemment la chose qui se passe très rapidement, c'est le 1er mai 1918, il faut de nouveau faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on décide de faire une manif là, festive, commémorative, avec, vous le voyez, des chars, enfin tout ce qui va devenir la manifestation soviétique par définition. C'est un four hein, pour le 1er mai 1918. Les personnes descendent dans la rue, les bolcheviks n'arrivent pas à mobiliser les foules. Mais peu importe le schéma est mis en place. Et on va le retrouver d'année en année. Et donc, à partir de 1918, la manifestation, elle existe en Russie, elle existe en Union soviétique, mais c'est une manifestation de célébration, célébration des autorités. Donc, aller dans la rue perd son sens quelque part, ou en tout cas, acquiert un autre sens. La dernière fois, donc là, c'était des petites images, 1918 à Moscou, donc j'avance assez rapidement. La dernière fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 7 novembre 1927. Donc vous avez ici une image du défilé pardon, du 7 novembre, donc de la commémoration de la révolution d'octobre sur la place Rouge à Moscou. Et vous voyez qu'elle est commémorée par un défilé militaire, en partie. Ce qui change déjà un peu l'ambiance des manifestations par rapport aux premières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et surtout, il y a des trotskistes et des zinoviévistes un peu partout qui essayent de manifester et de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la ligne du parti, puisque 1927, c'est la prise du pouvoir par les staliniens. Cette manifestation, elle est un peu mythique. Hein. Elle arrange tout le monde. Elle arrange les staliniens parce qu'ils montrent qu'ils ont réussi à défaire les trotskistes. Elle arrange les trotskistes parce qu'ils montrent qu'ils ont combattu et qu'ils étaient forts. En fait, ça a été assez foireux, j'ai l'impression. Ça n'a jamais été vraiment étudié je veux dire, historiquement et scientifiquement. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, visiblement, c'était plutôt... Bon, il y a Smilga au balcon de son bureau qui essayait d'agiter un peu des affiches. Il y avait des groupes par-ci, par-là qui sont très rapidement arrêtés par la police. Et c'est tout. Et à partir de ce 7 novembre 1927, il n'y a plus de grandes manifs. Les seules manifs, on va les retrouver. Et c'est pour ça que la boucle est bouclée par rapport au début de cette intervention. Les dernières grandes manifs, on les retrouve dans les campagnes. Dans les campagnes, au moment de la collectivisation des campagnes, le peuple rural qui s'oppose aux bolcheviks va descendre dans la rue. Alors la rue d'un village, évidemment, vous allez me dire que c'est compliqué, mais quelque part, ils rejoignent cette ambition de la revendication et ils se font tirer dessus. Et ils se font tirer dessus et la, la, comment dire, la revendication paysanne est totalement exterminée par le pouvoir bolchevique. Donc je vais juste terminer sur... En fait, cette manifestation, elle disparaît donc de l'espace public. Ouais, vous pouvez venir là. J'ai presque fini. Elle disparaît de l'espace public. La manifestation disparaît de la rue. Il n'y a plus de manifestation de rue jusqu'au milieu des années 80. Mais elle ne disparaît pas de l'espace public, parce qu'elle est représentée. Et on va retrouver les films, les tableaux, de nombreuses représentations de manifestations revendicatives. C'est-à-dire que si vous allez au cinéma à l'époque stalinienne, vous voyez des manifs. Mais c'est les manifs d'avant. C'est les manifs qui ont justifié l'apparition du pouvoir soviétique. Ce n'est pas des manifs fausses, d'ailleurs. C'est une forme de propagande qui n'est pas totalement fausse, parce que ça raconte effectivement l'histoire de ces manifestations revendicatives. Mais vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas y participer, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas revendiquer. Donc je voulais juste terminer. Je ne sais pas si tu allais mettre le son, c'est ça ? Bon, c'est un petit clin d'œil pour terminer en beauté, mais c'est un extrait du film... Je vais essayer de ne pas commencer le truc tout de suite. Un extrait du film La Mère de Poudovkine, qui est un des grands films soviétiques tourné en 1926, qui raconte donc l'histoire d'une révolte ouvrière dans la ville de Nijni Novgorod, et qui se termine par... qui est aussi l'histoire de l'éveil politique de cette mère, qui se termine notamment par cette grande manifestation... que vous allez voir là, mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, je crois que j'ai été suffisamment clair, c'est qu'au moment où on voit ça sur les écrans soviétiques, c'est impossible de le faire dans la rue. Donc en plus, je l'ai piqué sur YouTube, ils ont la bonne idée de mettre la Varsovienne dessus, ce qui n'est jamais désagréable à entendre. S'il y a du son, il n'y a pas de son. T'entends ? La manifestation en Russie.